Le roi d'Irlande avait équipé une flotte avec mission de ravager la Cornouaille, si Marc, ainsi qu'il le faisait depuis 15 ans, refusait de payer le tribut. Cette année-là, le messager du roi d'Irlande à Tintagel était un chevalier, un géant, le Morolt, dont le roi avait pris la sœur en mariage et qui sortait vainqueur de toutes les batailles. Pour la dernière fois, roi Marc, je fais entendre le mandement du roi d'Irlande, mon seigneur. Il t'enjoint de payer le tribut que tu dois. Et puisque trop longtemps tu t'y es refusé, il te requiert de me livrer en ce jour même 300 jeunes garçons et filles tout autant, tous de 15 ans, tirés au sort dans vos familles. Mon bateau qui attend au port de Tintagel les portera chez nous où ils seront nos serfs. Mais toi seul excepté, roi Marc, comme il convient, si l'un de tes barons veut prouver par bataille que le tribut d'Irlande est pris contre le droit, j'accepterai son gage. Alors Tristan s'agenouilla aux pieds du roi et lui dit « Seigneur roi, s'il plaît à votre grâce de m'accorder ce don, je ferai la bataille. » Vainement, le roi Marc voulut l'en détourner. Mais Tristan s'obstina. Il remit au Morolt son gage. Et tout fut dit. Aucun œil ne put voir l'âpre lutte. Tristan, vainqueur, adressa bien haut ses mots aux compagnons du Morolt. « Jean d'Irlande, le Morolt s'est battu vaillamment. Regardez, ma lame est ébréchée, et le fragment qui manque est resté enfoncé dans son crâne. Emportez avec lui ce morceau d'acier jusqu'en Irlande. C'est le tribut, seigneur, du pays de Cornouailles. » Tristan vient au château. Entre les bras du roi, il s'effondre. Et le sang ruisselle de ses plaies. C'est à grand déconfort que les gens du Morolt regagnèrent l'Irlande. Jadis, quand ils rentraient, ils se réjouissaient à revoir assemblés ces hommes qui en foule l'acclamaient, et sa sœur la reine et sa nièce, Iseux la blonde, aux cheveux d'or, dont la beauté brillait déjà ainsi que l'aube qui se lève. Elle lui réservait le plus doux des accueils, le guérissait s'il présentait quelques blessures, car elle connaissait les baumes et breuvages ranimant les blessés aux portes de la mort. Iseux la blonde apprit à détester un nom, Tristan de Launoy. À ce même moment, à Tintagel, Tristan languissait. Un poison coulait avec son sang de toutes ses blessures. Il songeait « Roi Marc, mon cœur n'a pas perdu tout courage. Je veux tenter encore la mer, cette grande aventure, et me laisser porter par elle, seul, très loin, dans un pays, qui sait, où je pourrais trouver quelqu'un qui me guérisse. » Tristan supplia tant le roi Marc qu'il céda à son désir. Il le porta dans une barque, sans rame et sans voile. On posa seulement près de lui une harpe, ainsi qu'il le voulait. Et la mer l'emporta. Douce, elle l'entraîna durant 7 jours, 7 nuits. Enfin, la mer, à son insu, le rapprocha d'un rivage. Les pêcheurs du pays trouvèrent Tristan. Ils recueillirent son corps pour revenir vers le port et remettre le blessé à leur dame aimante qui saurait peut-être le guérir. Leur dame était Iseult la Blonde. Seule, elle pouvait sauver Habile au Filtre, le blessé. Mais seule aussi, plus que toute autre femme, elle voulait sa mort. Quand Tristan, ranimé par son art, reconnut où il était, il sut que le sort le jetait sur une terre de péril. Il s'enfuit, et après maint danger, un jour, il reparut par devant le roi Marc.